Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, c'est Sylvain, vos ancêtres bloquent inconsciemment votre succès. Introduction à la psychogénéalogie de la réussite, c'est le sujet de cet épisode du podcast. Alors, si vous galérez dans votre vie malgré tous vos efforts, si vous êtes coach et que vous accompagnez des personnes dans leur développement personnel ou financier ou peu importe la thématique, surtout, écoutez bien cet épisode du podcast jusqu'au bout. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui a fait l'effet d'une bombe atomique dans ma façon de penser et dans la façon d'aborder une situation vis-à-vis de la réussite et du succès. Alors, de quel type de personnalité êtes-vous? Je vous pose cette question et j'ai listé trois catégories de types de personnalité. Et vous allez voir où je veux en venir. Alors, la première catégorie, vous faites partie peut-être de ces gens qui sont tristes dans leur vie et qui voudraient avoir plus de temps libre, qui voudraient pouvoir voyager, profiter davantage de leur famille, sortir de la routine du métro boulot dodo, mais qui croient que c'est impossible ou trop difficile pour changer de situation et qu'ils ne font donc rien pour changer cela. Ils n'y croient plus. Cette façon de penser et de se comporter caractérise les personnes qui ont éteint leurs rêves, qui les ont mis en mode veille pour une durée indéterminée. Ces personnes ne croient même plus au changement. Elles pensent que la vie est ainsi et qu'on ne peut pas la changer. La deuxième catégorie de personnes, vous faites partie de ceux peut-être qui se débattent tous les jours pour essayer de trouver une solution. Vous êtes dans la routine du quotidien qui vous insupporte. Mais cela est tellement insupportable que pour vous, le simple fait de vivre cette situation forcée vous insuffle une grande motivation et beaucoup d'énergie pour avancer chaque jour et apporter du changement dans votre vie. Vous ressentez une énergie sans limite au quotidien à l'idée de pouvoir sortir de la matrice, métro, boulot, dodo. Vous cherchez à mettre en place des actions qui vous permettront de créer un business qui vous passionne, de vivre de vos rentes. Mais pour autant, cela ne semble pas aboutir. Cela fait des années que vous tournez en rond. Vous êtes dépendant d'un salaire, d'un travail qui vous ennuie. Vous avez déjà lancé de multiples projets, mais qui n'ont jamais abouti. Échec, faillite, un marché trop restreint, trop de concurrence. Votre business ne décolle pas, malgré tous vos efforts, malgré toutes ces heures passées à travailler tôt le matin et tard le soir. Vos business, vous nous rapportez tout au plus quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros par mois, ce qui est bien insuffisant pour vous permettre de prendre votre envol vers la vie de vos rêves. Et enfin, la troisième catégorie de personnes. Vous faites partie peut-être de ces gens qui ont trouvé la clé. Vous réussissez à avoir une vie épanouie, complète, alignée avec vous-même, alignée avec votre mission de vie, et vous vivez le succès au quotidien. Vous gagnez tout l'argent dont vous avez besoin. Votre succès grandit chaque jour un peu plus. Vos clients sont de plus en plus nombreux. Ils vous apportent une grande satisfaction. Et votre croissance tend bientôt vers une forme exponentielle. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'une personne se trouve dans la catégorie 1, 2 ou 3? On peut essayer d'expliquer cela de façon rationnelle. Tout d'abord, il y a des critères contextuels et environnementaux. Vous êtes peut-être entouré de personnes sans ambition ou résignées dans leur vie ennuyeuse, des amis ou des collègues de travail. D'un autre côté, vous êtes peut-être entouré de personnes qui se bougent, qui mettent en place des projets pour avancer, des personnes qui réussissent. Vous habitez peut-être un quartier défavorisé, grisonnant, et la misère vous entoure. Ou alors vous habitez à la campagne, vous avez un petit jardin et l'environnement est calme et apaisant. Et enfin, vous êtes dans une famille où l'on vous répète souvent qu'il faut forcément travailler dur pour réussir à gagner tout juste sa vie. Ou alors vous êtes dans une famille où il y a des entrepreneurs, des investisseurs, et vous partagez du temps avec eux, par exemple, dans des repas de famille. J'citerai aussi le critère technique. Par exemple, vous n'avez pas les bons outils, les bonnes méthodes, le bon tunnel de vente, ce qui fait que vous vous trouvez dans la catégorie 2. Et enfin, les critères développement personnel. Vous n'avez pas le bon mindset, vous ne voyez pas assez grand, vos croyances limitantes vous bloquent, vos peurs vous empêchent d'avancer, vous restez en conséquence dans votre zone de confort et de sécurité, et il est difficile d'entreprendre. Et tout cela vous bloque dans les situations des catégories 1 ou 2. Également, le critère formation. Il faut acquérir des connaissances et des compétences nécessaires pour développer un nouveau projet, créer une start-up, investir dans l'immobilier ou dans la bourse, peu importe le projet. Pour expliquer le manque de succès, ce sont souvent ces quatre critères qui sont pointés du doigt. Pour rappel, le contexte environnemental quotidien, l'aspect technique, l'absence de développement personnel et l'absence de formation. Par exemple, on pourra souvent entendre « Ah, il s'est planté car il s'est lancé tête baissée sans aucune formation ». On pourra entendre aussi « Ah, tu t'es formé, tu as les connaissances, mais ton outil n'est pas assez performant. Alors tiens, plutôt utilise ce logiciel ou tel outil ». On pourra également entendre « Tu t'es formé, tu as les meilleurs outils, les mêmes que ceux qu'utilisent les gens qui ont du succès. Tu continues pourtant à stagner. » On pourra peut-être dire « Tu ne travailles pas assez. Il faut être patient et il faut persévérer. » Également, on pourra entendre dire « Tiens, ça fait 10 ou 15 ans que tu travailles, tu t'es formé, tu as les meilleurs outils, tu as de super coachs qui t'aident à dépasser tes croyances limitantes, tu travailles 60 heures par semaine et pourtant, après toutes ces années, tu n'arrives toujours pas à décoller. » Alors, dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Faut-il abandonner? Le succès est-il réservé à une catégorie de personnes qui ont tout réussi naturellement au bout d'un moment? Le succès est-il génétique? C'est-à-dire, les personnes sont-elles programmées génétiquement à leur naissance pour réussir et d'autres pour subir leur vie? Ce sont d'excellentes questions. Et j'aurai personnellement deux réponses à apporter. La première, c'est qu'on est tous avec un élan naturel d'épanouissement, d'amour, de curiosité et de découverte. Tous les enfants, dès lors qu'ils évoluent dans des conditions normales d'amour, que leurs besoins primaires sont comblés, évoluent vers un état de joie et d'éveil naturel. Par exemple, un bébé touche à tous les objets qu'il rencontre. Il a besoin de découvrir, de toucher, d'appréhender son environnement. Un enfant va naturellement jouer avec son environnement, grimper aux arbres. Il utilise naturellement son potentiel créatif. Par exemple, dans les jeux de construction libre, comme les Kapla ou les Lego, un jeune enfant ne se demande jamais s'il est dans le succès ou non. Je reprendrai même la situation, une citation, d'Oussama Hamar, en prenant l'exemple d'un enfant qui fait un dessin tout pourri, selon ses termes. Cet enfant ne dira jamais « Oh non, pourquoi faire un dessin ? Il y a tellement d'enfants déjà qui dessinent sur Terre. À quoi bon dessiner quelque chose qui sera forcément moins beau ?» que celui de mon grand frère ou de ma grande sœur. Un enfant, il va tout simplement dessiner, il ne va pas se poser de questions, et ce sera forcément le plus beau dessin du monde, à ses yeux, pour ses parents, pour ses grands-parents, etc. Donc il semble y avoir un facteur génétique naturel qui amène tous les enfants à la création et au succès dès la naissance. Donc a priori, on part tous sur une même base de réussite à la naissance. La deuxième réponse que je fournirais, je pense qu'il faut clairement remplir les critères liés qu'on a vus là tout à l'heure au contexte environnemental positif, à l'aspect technique, au développement personnel et à la formation. Ce sont des critères vraiment nécessaires à la réussite. Si malgré tout vous êtes bloqué au quatrième sous-sol dans l'évolution de vos projets, avez-vous déjà entendu parler du facteur psychogénéalogique ? Qu'est-ce que ce facteur psychogénéologique que l'on pourrait aussi appeler transgénérationnel? Il s'agit de ce dont vous héritez de manière inconsciente de vos ancêtres. Il s'agit d'un héritage émotionnel et comportemental de vos parents, de vos grands-parents, peut-être de vos arrière-grands-parents. Et on peut remonter assez loin comme ça. La psychogénéalogie est un terme inventé dans les années 80 par Anne Ancelin, Schusenberger, une psychothérapeute, auteur du livre « Psychogénéalogie » aux éditions Payot, qui a mené des recherches sur ces transmissions invisibles, sources de maux psychiques chez les descendants. Un proverbe dit « Nous sommes le résultat de l'ensemble des problèmes que nos ancêtres n'ont pas réussi à régler ». En psychogénéalogie, on dit que le penser des parents devient le manifester des enfants. En psychogénéalogie, on va donc pouvoir identifier trois types d'influences. Ce qui s'est passé dans votre famille avant votre conception, chez vos parents, chez vos grands-parents notamment. Ce qui s'est passé dans la période de 18 mois avant la naissance et 9 mois après votre naissance, et notamment la période des 9 mois de vie utérine. Et enfin, ce qui s'est passé dans les premières semaines et les premières années de votre enfance. À titre d'illustration, je vais vous donner un exemple très personnel. Dans mon cas, au moment de la vie utérine, il y avait une forte probabilité que je sois un grand prématuré. Et donc, ma mère, tout au long de la grossesse, a été assistée médicalement. Et elle a eu très peur de perdre le bébé. Il y a aussi eu la peur de la mort de mon père qui avait une profession à risque avec pas mal d'accidents au moment où j'étais dans le ventre de ma mère. Et puis il y avait aussi des problèmes d'argent dans la famille, perte de boulot, conflits familiaux au sujet de l'argent et donc peur de perdre de l'argent ou de se le faire voler. Ce qui se passe en réalité au niveau de l'émotionnel vécu par les parents au moment de la conception de l'enfant, c'est que tous les ressentis et les sentiments, en particulier ceux de la mère, vont être transmis au bébé dès les premières semaines de conception. Si la maman évolue dans un contexte de peur, d'insécurité, de violence, toutes ces émotions vont être comme cristallisées, imprimées dans le bébé. Cela paraît logique d'une certaine façon, car la maman est connectée au bébé via le cordon. Elle lui transmet son sang, sa nourriture et aussi son émotionnel. Une maman stressée par son environnement va faire un bébé stressé. Mais il n'est pas facile de faire le lien entre un ressenti enregistré au moment de la vie utérine et un ressenti ou un comportement vécu à l'âge adulte. Le fait est qu'on n'a pas la mémoire de notre vie utérine. On ne se souvient pas mentalement si on était stressé à l'âge de 8 semaines ou de 6 mois. Pour autant, il existe comme une mémoire émotionnelle encore plus puissante que la mémoire mentale du cerveau. Celle-ci s'exprime par les émotions, les ressentis et les comportements. Pourquoi il y a des personnes qui, à l'âge adulte, sont tout le temps stressées, malgré le yoga, la méditation, le sport et tout ce qu'on pourrait faire? Pourquoi il y a des personnes qui dépriment régulièrement? Pourquoi il y a des personnes qui, malgré tous leurs efforts, n'arrivent pas à développer leur business et à atteindre le succès? Eh bien, c'est tout l'objet de la psychogéanalogie. Cette pratique, je dirais même cette science, vise à identifier des événements du passé et des émotions des anciennes générations et de faire le lien avec des émotions, des ressentis, des comportements dans la vie actuelle en tant qu'adulte. Si je vous parle de ça aujourd'hui dans ce podcast, c'est que j'ai entrepris un travail personnel de psychogénéalogie depuis le mois de juin maintenant. Cela fait 4 mois et je peux vous dire que j'ai découvert une mine de réponses à la plupart de mes problèmes dans ma vie d'adulte. J'ai l'impression d'avoir augmenté de façon absolument incroyable mon degré de compréhension dans ma vie, dans ses aspects émotionnels et comportementaux. Ce qui est génial dans tout ça, c'est que la psychogénéalogie, via des exercices et des pratiques spécifiques, vous permet de déverrouiller des blocages qui existent depuis des dizaines d'années, depuis votre vie utérine, depuis plusieurs générations. Donc voilà, si vous galérez dans votre vie, malgré tous vos efforts, si vous êtes coach, et que vous accompagnez des gens dans leur développement personnel ou financier, peu importe la thématique, encore une fois, je vous encourage vivement de vous intéresser à la psychogénéalogie. Je vous encourage vivement à consulter un professionnel de la psychogénéalogie. Ce sont souvent des psychologues qui traitent la branche transgénérationnelle avec une possibilité de recherche spécifique sur la réussite et la relation à l'argent. L'impact que cela aura dans votre vie absolument faramineux, puisque vous pouvez à votre niveau débloquer la vie de toutes les générations futures qui vont vous succéder. Ça, c'est vraiment chouette de pouvoir se projeter là-dedans. Avant de clôturer cet épisode fascinant du podcast, je vous partagerai deux livres absolument extraordinaires et qu'il faut impérativement lire si vous vous intéressez à la psychogénéalogie de l'argent et de la réussite. Le premier livre s'intitule « Psychogénéalogie, relation à l'argent et réussite » de Marie-Noëlle Maston-Lera aux éditions Quintessence. Je vous mettrai l'ensemble des informations en note du podcast. Et le deuxième livre concerne une catégorie de personnes très particulière. Il concerne les personnes qui ont perdu un jumeau ou une jumelle pendant la vie utérine. Pour faire bref, l'un des deux fœtus n'a pas survécu et vous êtes le seul survivant. Cela a été personnellement mon cas et je peux vous dire que le livre dont je vais vous parler a provoqué une petite révolution dans ma compréhension de ma vie. Il s'agit du livre « La révolution Tipeee », T-I-P-I, « Régulez vos émotions, dépassez vos blocages » de Luc Nikon aux éditions Poche Le Duc. Ce livre est basé en fait sur l'analyse de 278 cas d'études de personnes qui ont perdu un jumeau ou une jumelle au moment de la vie utérine. Le protocole a été scientifique, il ne s'agit pas de croyances ou de phénomènes paranormaux. Le concept est à la fois cartésien et novateur car il dépasse la vision de la science que je dirais traditionnelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode du podcast, partagez-le au moins à une personne pour qui vous pensez qu'il sera utile. Faites-le maintenant, partagez par mail ou sur Facebook ou sur tout autre canal, car après, le quotidien risque de vous rattraper. Si vous venez de découvrir ce podcast, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes. Voilà, c'était Sylvain pour le podcast de Vers la liberté financière papa. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast. Ciao !